18h15 à Paris et à Washington. Quelle heure, Fabienne Saintès, l'heure de vous retrouver?
Eh ben absolument, 12h16, très exactement. Amélie, merci beaucoup, on se retrouve évidemment tout à l'heure. Allez, c'est parti, enfin c'est parti, vous savez quoi?
Il est temps. En direct de Washington.
Voilà, je le disais, enfin c'est parti et il est temps pour cette Amérique de commencer à voter. Comme toujours en fin de campagne, l'Amérique s'emballe, elle se divise, s'il est encore possible d'ailleurs d'être plus divisée que les Américains le sont en ce moment. Évidemment, on en parlera et elle vote donc depuis 7h ce matin. Elle a déjà commencé à le faire beaucoup en amont, on y reviendra aussi. Vous savez qu'on vote en avance aux États-Unis si on le souhaite. Une Amérique qui vote avec enthousiasme et avec anxiété aussi. Ce référendum pour ou contre Donald Trump, c'est lui qui l'a voulu, c'est lui qui l'a construit pour provoquer un regain de motivation chez ses électeurs, quitte à exaspérer aussi encore un peu plus ses détracteurs. Tous contre Trump ou tous avec Trump, c'est dans cette Amérique-là, avec les Trumpistes qu'on n'a pas voulu voir peut-être en 2016, qu'on va essayer de se promener ensemble jusqu'à 20h ici à Washington, la ville politique, un peu plus loin, de l'autre côté du pont en Virginie, puis nous serons en Floride, nous serons dans le Wisconsin, nous serons autour de Détroit également, la rencontre des électeurs devenus le miroir de leur président finalement, sans complexe, peut-être sans filtre aussi. Midterm, c'est aussi une Amérique de Trump à mi-parcours et il y a beaucoup à dire. L'Amérique est vaste, mais on a 2 heures. Welcome aboard.
Fabienne Saintès, 18-20 spécial.
My daughter is in high school. Her.
Ma fille était au lycée. Les mères de ses amis me détestaient parce que j'ai soutenu Donald Trump. Voilà jusqu'à quel point il divise. Je n'aurais jamais détesté qui que ce soit parce qu'il a voté Clinton ou Obama. J'ai été ostracisée. Les gens sont tellement obnubilés par leurs propres opinions qu'ils lui refusent le droit d'être président, bien qu'il améliore nos vies, qu'il permette une meilleure éducation pour nos enfants, bien que les prix soient plus bas. Trump n'est pas un politicien. Il ne parle pas avec la rhétorique des politiques. C'est un New Yorkais.
On le verra, on entendra beaucoup cette phrase. Trump n'est pas un politique, c'est un New Yorkais. Bonsoir, Kenneth Weinstein.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes le premier invité de cette spéciale, président de l'Houston Institute, donc plutôt d'obédience républicaine. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette Jackie? Est-ce que vous avez l'impression que, oui, on est assez juste, en fait, dans cette Amérique extrêmement divisée, qui ne parle pas à l'autre camp et qui est presque devenue paranoïaque, si on en croit ce que dit Jackie?
Oui, je crois qu'elle a tout à fait raison. Ça se voit de point de vue social. Les gens ne disent pas s'ils soutiennent le président, surtout s'ils sont sur la côte est ou la côte ouest. Les gens qui aiment Donald Trump, en général, ont tendance de se taire dans les réunions sociales, etc., afin de ne pas être exclu de la conversation de quelque manière ou
voire insulté d'ailleurs de ce que nous ont raconté
insulté,
certains. Ouais.
Tout à fait. Et oui, certainement, ça arrive même chez moi d'ailleurs.
Chez vous, dans votre famille, vous voulez dire,
ouais,
Kenneth
Weinstein?
Dans ma
famille, avec nos amis, etc. Il vaut mieux parfois se taire plutôt que d'offrir ses opinions, certainement.
Parce que tout le monde nous a raconté des scènes de ce genre, notamment une dans une réunion. Levez la main si vous avez perdu un ami ou quelqu'un de la famille à cause de votre vote. Il paraît que tout le monde a levé la main. Ça se passe pareil chez vous?
Oui, dans le sens, j'ai pas perdu des amis, mais j'ai des amis que je vois beaucoup moins fréquemment que qu'avant le 8 novembre 2016.
Et j'imagine que vous parlez moins politique. Du coup, est-ce que vous avez le sentiment, Kenneth Weinstein, que c'est Donald Trump qui a voulu cette situation cette division, au fond, exaspérer les uns et exacerber cette base? Est-ce que c'est lui qui a voulu, qui a ouvert la boîte de Pandore d'une très grande division?
Bon, le président ne parle pas dans la langue de bois. C'est quelqu'un qui, même à la Maison-Blanche, avec ses conseillers, c'est lui qui pousse. Parfois, avant les décisions, il cherche bien de trier, de faire une différence. C'est quelqu'un qui souhaite pas gérer, c'est quelqu'un qui souhaite vraiment changer, transformer. Et dans ce sens, il a certainement pas choisi de, et il a certainement choisi de faire que les choix sont très clairs.
Mais alors, il impose effectivement la conversation. C'est peut-être le point positif au fond pour lui, en tout cas de son point de vue à lui. Est-ce que il a, est-ce que en face, on n'est pas obligé finalement de suivre dans un sens où on n'a pas envie d'aller. Enfin, on a l'impression que républicains et démocrates pendant cette campagne ont eu deux conversations complètement différentes en fait, les uns et les autres. Les uns parlent d'immigration, les autres parlent de santé. Personne ne parle ensemble là-dedans, si ?
Oui, non, on a certainement l'impression que les conversations sont bien séparées, sauf que les démocrates ont bien ciblé des anciens républicains, la bourgeoisie de banlieue qui avant été dans l'époque de George H.W. Bush ont voté républicain, ils ont voté aussi pour Bill Clinton, donc ils ont ciblé ce genre de républicains. C'est ce genre de républicains qui est plus modéré, qui sont parfois attirés par les discours tenus par les démocrates. Et certainement Trump a certainement transformer le parti républicain qui était avant parti bourgeois. Maintenant, le parti républicain est un parti des travailleurs col bleu, des gens qui n'ont pas terminé le lycée, des gens qui n'ont pas de formation supérieure.
Et on y reviendra probablement au cours de cette émission. Est-ce que vous diriez qu'il a fait une sorte d'OPA sur le Parti républicain ? Il l'a dans la main aujourd'hui. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, maintenant que John McCain est mort d'ailleurs, un républicain qui oserait s'opposer réellement à Trump ? Puisque, en tout cas, avec la base, ça marche toujours.
Oui, non, avec la base, le soutien de Donald Trump est incroyable. Plus de 93% de ceux qui restent républicains. Et d'ailleurs, l'affaire autour de la nomination de Brett Kavanaugh pour la Cour suprême a vraiment serré les rangs du Parti républicain. Maintenant, après la mort de John McCain, on attend ceux qui souhaitent une espèce d'opposition à Donald Trump au sein du Parti républicain. Bon, Jeff Flake, le sénateur d'Arizona, part du Sénat cette élection, et donc ceux qui souhaitent un opposant attendent Mitt Romney, qui va être élu le sénateur de Utah aujourd'hui. Et Romney était farouchement critique de Donald Trump lors de la campagne, et même critique de Trump lors de la campagne de cette année. Donc il était critique en 2016 et critique en 2018, mais moins critique qu'en 2016.
Kenneth Weinstein, ce qu'on entend beaucoup en croisant des républicains, c'est aujourd'hui on ne baisse plus la tête. On n'a plus honte, on dit les choses, et y compris parfois, alors de notre point de vue, les pires des choses, mais aujourd'hui, on ne baisse plus la tête. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans cette Amérique, y compris les républicains, pour que des gens, aujourd'hui encore, et 2 ans après, disent « nous, on l'aime parce que il nous défend réellement ».
On a le sentiment que, lors de la présidence de Barack Obama, président Obama a un sentiment que l'histoire a changé, que l'Amérique a été transformée, que les vieilles idées républicaines qui étaient, ou même les idées sociales conservatrices étaient complètement dépassées, et que c'était à nous de rattraper l'histoire, nous en disant ceux qui sont à droite, et maintenant Trump a bien montré non, l'histoire n'est pas terminée, qu'on peut avoir des opinions différentes et qu'on peut même les exprimer. Donc c'est l'attaque contre ce qui est politiquement correct, ce qui est Trump, il incarne toute cette attaque tous les jours. Donc c'est pas les universités, c'est pas les universitaires qui vont nous dire ce que faire, ce que pensent, ce qu'il faut dire à nos enfants, à ce qu'il faut penser, ce qu'il faut écrire.
Et c'est vrai que vous le disiez, bonsoir Grégory Philips.
Bonsoir Fabienne.
Et qui va servir aussi évidemment de fil rouge pendant ces 2 heures. Grégory, correspondant ici à Washington, on le disait avec Ken Weinstein à l'instant, la courbe d'approbation de Donald Trump, au fond, elle bouge très peu depuis 2 ans. Elle a à peine évolué, preuve qu'effectivement la base est bien là. Après, la question c'est qui va voter, qui vote là aujourd'hui, qui se mobilise réellement ?
Bah en tout cas, il y a beaucoup de gens plus qu'aux autres midterms, parce que vous savez, il y a le vote anticipé ici, le early voting, et on est à 36 millions de votes déjà exprimés, c'est 9 millions de plus qu'au dernier midterm. Qui s'est mobilisé, ça je peux pas vous le dire. Est-ce que c'est les démocrates poussés par un anti-trumpisme un peu basique qui sont allés massivement aux urnes, ou est-ce que c'est les supporters de Trump qui se sont dit attention, il faut vraiment apporter notre soutien au président? Ça personne ne le sait, on le saura ce soir ou demain matin, mais oui, apparemment ces midterms ont intéressé un peu plus que d'habitude, il y a un peu plus de gens qui sont mobilisés. On va voir si la participation se confirme ou pas ce soir ou demain matin. Et pourquoi est-ce que les gens se sont un peu plus passionnés pour ces élections? Bah à cause de Trump. C'est parce que c'est des élections sur Trump. Il l'a dit hier dans un meeting dans l'Ohio, je crois. Il a dit
j'ai rendu les élections à mi-mandat hot,
un peu plus sexy,
tendance sexy,
un peu plus sexy. Ouais. Et c'est des élections locales, mais c'est comme s'il y avait mon nom sur le bulletin. Donc évidemment pour les anti ou pour les pro-Trump. On l'a dit beaucoup, c'est un référendum sur le président, mais c'est vrai.
Et c'est lui, Kenneth Venchen, qui voulait que ce soit un référendum sur son nom, donc c'est à double tranchant. Au fond, effectivement, on galvanise la base, mais on peut aussi exaspérer encore un peu plus l'opposition.
Ah, certainement. Et le président a décidé de jouer la campagne aux alentours de la question d'immigration, surtout lorsque son bilan économique est assez fort, et il aurait dû montrer une Amérique plus forte, économie plus forte, chômage niveau historique, niveau bas historique, du point de vue historique depuis des décennies, de nombre de personnes qui entrent dans le travail, le marché du travail continue à augmenter.
Et au lieu de ça, effectivement, il parle d'immigration, mais il le dit lui-même d'ailleurs, et c'est ça qui est très étonnant. Il dit, je pourrais vous parler d'économie, mais finalement, c'est très ennuyeux tout ça. Parlons plutôt d'immigration, ce qui est quand même fou, Grégory, non?
Oui, mais ça parle à sa base. Mm-hmm. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est ça que les gens ont envie d'entendre de la part de Trump, des propos un peu qui cassent un petit peu le politiquement correct, etc. Il y a quelque chose, j'y pensais tout à l'heure quand vous évoquiez un peu la division entre ces électeurs, cette base Trumpiste, je sais pas, du Kentucky, de Pennsylvanie, puis par exemple les gens de Washington, ici on a Washington. Trump, pendant la campagne de 2016, parlait beaucoup du marigot de Washington. On va assécher le marais de Washington, mais il y a vraiment ça encore chez les gens, chez les électeurs de Trump. C'est oui, à Washington, les gens ne connaissent pas notre vie, ne connaissent pas nos difficultés, mais Trump, lui, nous représente. Et ça, cette coupure, il suffit de faire 30 kilomètres. Enfin, vous êtes sorti de Washington, Fabienne, ces derniers jours pour aller rencontrer des gens. Il y a une coupure, mais absolument incroyable, entre les gens qui vivent ici sur Capitol Hill et qui travaillent ici à Washington, et puis les gens de tous les jours qui eux ont des difficultés et selon eux qui sont compris par Trump.
Alors effectivement, il suffit de passer le pont et d'aller un peu plus loin du côté de la Virginie pour être dans une toute autre Amérique. Il faut rappeler que là où nous sommes, les chiffres, c'était quoi? 95% des électeurs ont voté pour Hillary Clinton à Washington en 2016. Donc effectivement, c'est un autre monde. Est-ce qu'on peut rappeler quelques chiffres, Grégory, pour se remettre d'aplomb? 435 représentants à la Chambre, ouais. 35 sénateurs, ouais. Puisque renouvelés aux deux tiers. Hein, donc beaucoup plus difficile pour le coup là pour les démocrates.
Oui, alors on se méfie toujours un peu des sondages, notamment après les surprises de 2016, mais voilà, tous les instituts disent que les démocrates ont quand même une bonne chance de devenir majoritaires à la Chambre. Il faut qu'ils gagnent 23 sièges. C'est faisable. Il y a une trentaine de circonscriptions qui sont un petit peu en jeu, mais a priori, c'est faisable pour les démocrates. Au Sénat, ça a l'air très compliqué. La majorité est républicaine, 51 contre 49. Il y a 9 sièges pour les républicains à défendre. Il y en a 26 à défendre pour les démocrates. Donc, a priori, le scénario qui est prévu à peu près par tout le monde, quand on va se réveiller demain, c'est un congrès partagé, c'est-à-dire un Sénat toujours républicain et une Chambre dominée par les démocrates, Fabien.
Ok, on va l'emmener, on va faire un tour, un vrai tour dans cette Amérique de Trumpiste tout au long de cette émission et jusqu'à 20h. On va essayer de les traverser, ces États, les uns les autres. Je voudrais qu'on aille directement en Floride. D'abord, on expliquera pourquoi la Floride est un État important pour ces élections. On va rejoindre Claude Guibal peut-être dans un instant. Mais avant cela, je voudrais vous faire rencontrer un monsieur qui s'appelle Rick Fawcett. Et précisément, Claude Guibal l'avait rencontré, Rick Fawcett, en 2016. Il nous expliquait à ce moment-là pourquoi il avait choisi de voter Trump. Donc on va l'écouter maintenant, puis on va le réécouter maintenant. On va l'écouter à l'époque, pardon, et puis on va le réécouter maintenant aussi pour voir un peu s'il a changé, ce Rick Fawcett. Version 2016, d'abord, et la voici.
Il y a des choses qui comptent pour moi, et moi j'aime mon pays. Quand je vois quelque chose qui ne va pas, je ne peux pas me contenter de mettre la tête dans le sable. Si on en croit les statistiques, il n'y a pas eu de hausse de salaire depuis 10 ans. Le niveau de vie a baissé. Les gens ne peuvent quasiment plus acheter une maison. Depuis qu'Obama est au pouvoir, il y a des millions et des millions de personnes qui vivent des aides sociales. C'est ça la situation désespérée de ce pays. Et c'est ce qui explique ce mouvement autour de Trump. C'est ce sentiment parmi les Américains que si on ne gagne pas maintenant, c'est fini. On va tourner comme les sociétés socialistes. Et on va finir comme le Venezuela. Vous savez ce qui ne va pas là-bas, hein? Moi, j'ai des petits-enfants et je me fais du souci pour leur avenir. Il n'y a pas de job. C'est quoi ça? Moi, j'ai fait 4 ans d'études. Mais aujourd'hui, si j'étais jeune, je n'aurais pas de travail. Et puis maintenant, quand quelqu'un réussit sa vie, on lui dit que c'est mal, parce qu'il a du succès. Et Trump, quelque part, il a réussi à dire aux gens, « Oui, j'ai réussi, et c'est pour ça que je suis l'homme qu'il vous faut. » Et c'est ça, moi, que j'aime chez lui. Il est milliardaire, mais il parle comme un homme du peuple. That's one of the reasons I liked him. He's a billionaire, but he seems to speak
as a common man. Eric Fossett, en 2016, rencontré par Claude Guibal en Floride. J'ai envie de dire, électeur typique, Kenneth Weinstein, au fond, il parle comme nous, ce millionnaire, il nous ressemble. Alors qu'on sait tous que c'est pas tout à fait juste, enfin, mais bien joué de la part de Donald Trump d'arriver à avoir cette empathie vis-à-vis des gens, finalement, et leur dire, regardez comme je vous ressemble. Et c'est ça qui était intéressant pour Rick Fawcett.
Oui, mais d'ailleurs, c'est ce qu'il dit aux gens lorsqu'il a un dîner avec des grands donateurs. Il dit effectivement, je suis pas là pour vous, je suis là pour les gens défavorisés, pour les gens col bleu. C'est eux qui m'ont élu. Je suis pas là pour vos affaires. Et je crois quand même que c'est vraiment l'esprit qui guide le président de quelque manière. Donc c'est de restaurer. Le travail, la dignité de la du travail, de l'économie d'abord, et surtout de bâtir des usines pour le travail pour des gens de col bleu. C'est vraiment son but principal.
Bonsoir Claude Guibal.
Bonsoir Fabienne.
Et bienvenue Claude dans cette spéciale. Vous êtes donc toujours en Floride avec Jérémy Tuile. Vous l'avez retrouvé donc le fameux Rick Fawcett avec lequel vous aviez passé beaucoup de temps déjà en 2016. Qu'est-ce qui devient Rick ?
Ben alors Rick, vous l'avez dit, hein, je l'avais repéré à l'époque en 2016. Je l'avais rencontré en fait par hasard et j'avais repéré cet immense panneau Trump qui trônait au-dessus de son garage. Et à l'époque, il m'avait dit que c'était la première fois en fait qu'il s'engageait en politique. Alors Rick, vous allez l'entendre hein, encore, hein, mais c'est vraiment le genre d'homme qui s'est effectivement senti reconnu hein, par Donald Trump. Il a vu en lui bah, quelque part un peu l'homme qu'il aurait aimé être, un homme riche mais décomplexé, accessible. En fait, surtout, comme le disait Ken Weinstein tout à l'heure, pas un bourgeois. C'était vraiment le rêve américain. De main. Alors, Rick, il se trouve que je suis retournée le voir quelques semaines après, plus tard, juste avant l'élection. Son ton, à ce moment-là, était devenu plus affirmé encore, plus confiant. Et là, cette semaine, troisième rencontre avec lui, Rick, le garagiste, eh ben, c'est devenu un vrai militant qui organise chez lui des meetings. C'est vraiment un homme, moi, je l'ai senti très heureux, très galvanisé. Et je ne sais pas comment vous dire, Fabienne, il a presque pris de la stature, Rick. Il est devenu très, très fier. Et puis, il le dit, Donald Trump, pour lui, il a déjà dépassé, en fait, toutes ses promesses, hein, toutes ces espérances.
Eh ben, on écoute votre reportage avec Jérémy Tuile, Claude, et on se retrouve juste après.
Hello.
How are you doing, darling? It's good to see you, my darling. You're looking good. You don't look any different.
I don't look any different.
No, you're looking good. No, you look good. You're looking
good. You haven't changed. Because now we know.
Ça fait quelques années là maintenant qu'on se connaît.
Oui, quelques années en effet. Et depuis, quelle chance, Trump a gagné et c'est super. L'économie se porte bien. Et les médias, ils n'ont plus rien à se mettre sous la dent, ils ne savent plus quoi faire pour s'attaquer à lui. Ils inventent des histoires à dormir debout, ils cherchent à le faire passer pour un raciste, un type intolérant. C'est un nationaliste. C'est quoi le problème de vouloir prendre soin de son propre pays ?
Nationaliste. Il y a 2 ans et demi, lorsque nous l'avions rencontré pour la première fois, Rick Fawcett n'utilisait pas du tout ce mot-là, mais plutôt celui de patriote. À l'époque, Rick était un des rares à Orlando à soutenir Donald Trump devant son garage le long de South Orange Avenue. Les panneaux pour les élections de midterm ont remplacé ceux de la présidentielle et à l'intérieur, au milieu des enseignes métalliques rutilantes pour les moteurs ou les huiles, c'est toujours Donald Trump qu'on vénère.
La prospérité est de retour. Lui, il n'a pas peur de parler de sujets qui font peur aux autres politiciens. Eux, ils ont peur. Dès qu'on dit que ces accords commerciaux sont mauvais pour les États-Unis parce qu'ils craignent qu'on les traite de nationalistes, parce qu'on fait croire qu'être nationaliste, c'est pareil que d'être fasciste, on l'accuse de tout un tas de trucs imaginaires à cause de sa réussite. Je pense qu'ils sont désespérés. Ça confine à l'absurdité totale, mais j'imagine qu'il doit y avoir des gens qui gobent ça.
Rick est ravi. La croissance en hausse, les salaires qui augmentent, le chômage qui baisse. Lui, il y croit depuis le début et c'est comme si ça lui avait donné plus de confiance en lui. Et puis depuis 2 ans, il s'est fait aussi des amis, ceux qui, comme lui, en avaient marre de baisser la tête. Parmi eux, il y a David Nelson. Il est propriétaire d'une petite imprimerie.
Le nouveau slogan de Donald Trump, c'est « chose promise, chose faite ». Il avait dit qu'il remettrait l'économie d'aplomb, promesse tenue. Il avait dit qu'il allait renégocier les accords commerciaux avec l'Union européenne, le Canada, le Mexique. Il l'a fait et voilà, les marchés remontent. La Corée du Nord, c'était une poudrière. Il ne manquait plus qu'une étincelle pour que ça pète. Les emplois, l'industrie minière, le charbon, le pétrole, les usines, celles qui étaient fermées depuis des décennies, réouvrent. Les gens ont du boulot. Ok, il n'a pas encore fait tout ce qu'il avait promis, mais il n'est là que depuis 2 ans et il doit se battre contre le Congrès, le Sénat, les médias. Où qu'il tourne la tête, il y a quelqu'un pour l'attaquer.
David met toute son énergie dans la campagne. C'est lui qui imprime les autocollants, les t-shirts, les pancartes qu'on vend devant le garage de Rick tous les week-ends pour financer la campagne du Parti républicain. Ils sont quelques-uns à s'y rassembler, à sautiller au bord de la route en agitant des bannières. Il y a les Copley, par exemple, Dick l'ophtalmo et sa femme, Brenda, infirmière à la retraite, une ancienne du Vietnam. Elle le dit, la campagne présidentielle de 2016 a permis à la vraie Amérique de se retrouver.
Beaucoup de gens se demandaient combien d'années il allait encore falloir attendre avant que les bons Américains méritants disent qu'ils en ont marre. 8 ans de présidence Obama où toutes nos traditions ont été attaquées. Ils ont sorti Dieu des écoles, ils ont attaqué le fait qu'on fasse des prières au début des sessions parlementaires. Ce pays a été bâti sur des fondations judéo-chrétiennes. Le président Trump, c'est un des meilleurs alliés que les chrétiens aient jamais eu. Il y a une résurgence du patriotisme, de la fierté nationale, et on en a marre de ceux qui attaquent notre histoire. And saying we're tired of people attacking all of our history.
Brenda caresse ses boucles d'oreilles aux couleurs du drapeau américain. Les migrants qu'elle qualifie d'envahisseurs, les communistes qui s'infiltrent partout dans l'éducation, dans les médias. Ici, on peut en parler. Dehors, les camions klaxonnent, un homme en t-shirt « Build the wall », construire le mur, agite une pancarte. Rick, le garagiste galvanisé, brandit des autocollants « Fake news », l'ennemi du peuple. Un vétéran en chaise roulante et grosse barbe harangue les voitures qui passent. « Votez, faites du bruit, allez voter !» C'est la dernière ligne droite avant l'élection.
Merci à Claude Guibal et à Jérémy Thuy, le reportage en Floride. Kenneth Weinstein, il y a quelques petites paroles comme ça de républicains que je retiens dans ce reportage qu'on vient d'entendre. Les bons Américains méritants avaient besoin de Donald Trump. Les fondations de l'Amérique sont à nouveau mises en avant. On a beaucoup dit, voire caricaturé au moment de l'élection de Donald Trump, l'image de l'homme blanc en colère. Mais au fond, quand même, ce qu'on entend, c'est que l'Amérique, c'est pas tant l'économie qu'elle va chercher, même si elle est contente d'avoir une bonne. Elle nous parle d'identité. Elle nous parle de crise d'identité. Elle nous parle de tout ça avec cette élection de Donald Trump et aujourd'hui encore pour les élections à mi-mandat.
Oui, une partie importante de la base de Donald Trump, les gens ont soutenu Donald Trump dans l'espoir que l'Amérique se retrouve. Donc, c'est une réaction forte à la présidence de Barack Obama, à sa politique sociale très à gauche, sa vision de l'Amérique à l'échelle internationale, et c'est Trump qui qui soutient, qui souhaite une Amérique forte, fière d'elle-même, plutôt qu'une Amérique qui est dépassée par l'histoire, Amérique qui cherche à avoir meilleur lien avec l'Iran et le Cuba. C'est une Amérique forte, sûre d'elle-même, qui fait des demandes auprès de ses propres alliés et surtout auprès de ses concurrents géostratégiques. Donc c'est un sentiment tout à fait différent entre le Parti républicain et le Parti démocrate.
Et on va y revenir dans un instant à cette Amérique-là. On va parler notamment de la situation économique, effectivement. Et vous m'arrêterez si je me trompe, Kenneth Vinson. On a un peu l'impression, y compris en écoutant d'ailleurs ce qu'on vient d'entendre en Floride, que les gens parlent d'économie de manière empirique. En fait, on pas forcément sur leur situation personnelle. Vous nous expliquerez si oui ou non cette situation a réellement changé en fait pour chacun des Américains. Il paraît qu'il adore Sissix Steve, Donald Trump. Je ne sais pas, en tout cas, le voici.
It's knowing that your door is always open and your path free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. It's knowing I'm not shackled by forgotten words or bones, some ink stains that have dried up on some night. That keeps you on a back road by the rivers of my memory, keeps you ever gentle on my mind. It's not clinging to the rocks and ivy planted on the columns now that binds me, or something that somebody said cause I thought we'd fit together walking. It's knowing that your world will not be cursing or forgiving when I walk along some railroad track and find that you're waving from the back roads by the rivers of my memory, ever smiling, ever gentle on my mind. And though the wheat fields and the clotheslines and the junkyards and the highways come between us, some other woman crying to her mother cause she turned and I was gone, but you're waving from the back roads and by the rivers of my memory, for hours you're just gentle on my mind.
Fabienne Saint-Ès en direct de Washington, spécial midterm.
Je m'informe en allant sur Twitter en me levant le matin pour voir ce qu'il a dit. Et je vois bien comment il doit mettre la conversation en musique. C'est lui qui doit bien encadrer le message qu'il veut mettre en avant. Sinon, personne n'en parle. Et je vois bien ce qu'il dit comparé à la presse. Et au bout du compte, on paye moins d'impôts, on a de meilleurs emplois, et aussi le fait qu'il aille aux Nations Unies, que les gens soient vexés par ce qu'il met en avant. L'Amérique d'abord. Mais enfin, on est américain.
Jackie, dans son diner, donc on retrouve tout au long de cette émission Kenneth Weinstein, assez conforme effectivement à ce qu'on disait jusqu'à présent, le style de Trump, c'est aussi ce qu'ils aiment ces gens-là, et on parlait de ses tweets à l'instant, de ce style à l'emporte-pièce, auprès de cette base-là, en tout cas, ça fonctionne très bien.
Ah, certainement, c'est le manque de langue de bois, c'est la franchise, c'est l'ouverture, c'est pas du tout le style de la classe politique. C'est un ton.
He's not a politician, he's a New Yorker. Bon, décidément, encore une fois, c'est toujours ça qui revient. Oui. Et mais ça veut dire quoi, honnêtement? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire réellement de se dire, lui, Trump, il est New Yorkais, donc il est pas comme les autres.
C'est-à-dire, il est pas poli. C'est qu'il cherche pas. Il dit ce qu'il veut, il s'en fiche. Il se fiche de ce qui se passe après. Donc, il part directement. Il essaie pas de se cacher. Il est direct, clair, franc, et Voilà, c'est son style.
Les journaux, j'allais dire les journaux d'opposition, les journaux tout court, en fait, ont beaucoup, ces deux dernières années, pointé chacun des mensonges et sur chacun des tweets. Est-ce que, selon vous, finalement, c'est une bonne stratégie, en fait? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas en dire moins, en fait, ne rien dire, ne pas relever chacune de ses paroles, finalement? Est-ce que cette question, elle se pose?
Ah, certainement, c'est le président qui décide. Certainement, ses conseillers ont été frustrés d'un tel point de parfois, certainement, ils cherchent que le président doit mieux se taire après une situation, mais le président, c'est lui qui décide et qui cherche à dominer les actualités. Et donc, et c'est un peu le président, donc son background en tant que son expérience sur l'apprenti, ce programme télévision, il a eu le sentiment de dominer la discussion.
Mais y compris Kenneth Wenchen de la part de ceux qui le combattent. Est-ce que l'idée de reprendre chacune de ses paroles l'une après l'autre a réellement du sens finalement? Est-ce que ça a une vraie efficacité? Ou est-ce que ça le met de toute façon à la une des journaux quoi qu'il arrive? Donc est-ce que c'est bien la bonne stratégie?
La presse, et parfois, certainement c'est son ennemi principal, mais c'est parfois
préféré,
mais c'est parfois son allié aussi, dans le sens qu'il met l'accent sur ses hypothèses, donne plus de une espèce de publicité à ce qu'il dit. Et ce qui est intéressant, c'est parfois Trump dit quelque chose, la presse le nie, et ensuite on voit que Trump a eu raison, et ça s'est passé à plusieurs reprises à l'égard de la FBI, à l'égard de surtout du numéro 2 de la FBI, à l'égard de James Comey. Après le livre de James Comey, tout le monde se voit que Trump avait effectivement raison, que Comey était assez politique, c'est quelqu'un qui manquait de jugement, c'est un jeu aussi dangereux pour la presse.
Grégory Philips.
En tout cas, il y a une certitude, c'est lui qui donne le tempo.
Ah oui.
Le tempo pour la presse, enfin, et je suis bien placé pour le savoir. C'est-à-dire que on réagit à chacun de ses tweets, et puis il y a une polémique qui démarre, et puis deux heures après, il y a un autre sujet qui arrive. Ça va extrêmement vite, et lui donne le tempo comme ça. Et la presse suit, et les démocrates, c'est pareil. Ils suivent, ils réagissent, ils surréagissent, et puis deux heures après, on est passé à autre chose. Donc Trump est le maître des horloges ici aux États-Unis, et tout le monde court derrière ses propos, parfois outranciers, c'est vrai, ses tweets ou les polémiques qu'il peut lancer, et ça va à une vitesse complètement folle. D'ailleurs, la presse, alors vous disiez la presse d'opposition tout à l'heure, mais ils ont musclé leur staff à la Maison Blanche parce que on était dans une présidence un peu tranquille sous Obama, où je sais pas, deux correspondants du New York Times ça suffisait. Il faut qu'ils soient six maintenant pour suivre le rythme que Trump impose à tout le monde.
Alors je dis la presse d'opposition, ce qui est pas le bon terme en soi, au fond, la presse tout court.
Oui, mais
En effet, mais qui désormais, Kenneth Wenchen, se vit comme une presse d'opposition.
Certainement. Je regarde le Washington Post depuis l'achat par Jeff Bezos, le propriétaire d'Amazon de Washington Post. J'ai l'impression de lire un journal européen avec des éditoriaux sur la une. Chaque jour, c'est assez incroyable. Et d'ailleurs, c'est fatigant pour tout le monde à Washington. On n'a pas l'habitude de travailler 7 sur 7. Normalement, les week-ends étaient assez calmes. Le président passait le vendredi après-midi à Camp David, et ensuite, on avait les week-ends assez calmes.
Alors, il passe beaucoup de temps au golf.
Oui, mais il n'arrête pas de tweeter.
Mais il tweet quand même.
Oui, le week-end, le soir, c'est tout à fait différent. Même dans les think tanks, c'est un tempo, le rythme est de jamais vu, vraiment.
Quelle fatigue, ce Donald Trump. Grégory Philips, avant qu'on reparte notre tour de l'Amérique de Trump aux États-Unis, je voudrais qu'on regarde, que vous nous expliquiez un peu où on regarde ce soir et demain. Quels sont les États, quels sont les gens qu'il faut surveiller de très très près?
Il y a 3-4 États où on va vraiment regarder ce qui se passe. Le Texas, il y a ce jeune démocrate Beto O'Rourke dont on a beaucoup parlé, qui va aller.
Mirage ou pas
On verra. Très charismatique, il a une quarantaine d'années, ancien chanteur de punk music, opposé au sénateur sortant Ted Cruz. Ça va vraiment être un combat intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est peu probable que le Texas vote démocrate finalement. Mais en tout cas, il y a un élan qui est quand même.
Dans les sondages, il a toujours été derrière. Hein,
Beto O'Rourke. Il est derrière. Mais en tout cas, il y a une personnalité qui commence à émerger un peu. On va regarder ce qui se passe en Géorgie avec cette démocrate Stacey Abrams qui qui pourrait devenir peut-être la première femme noire gouverneure aux États-Unis. C'est quand même pas n'importe quoi. Et puis on va regarder la Floride, c'est important. Puis enfin on va regarder ce qui se passe du côté des Grands Lacs, les cols bleus dont vous parliez, qui en 2016 avaient voté pour Trump. On va voir s'ils continuent à faire confiance à Trump et aux Républicains ou s'ils rebasculent du côté démocrate. Voilà en gros les 4-5 États qu'on va vraiment regarder
ces
ce soir.
De ce qu'on appelle la Rust Belt, c'est-à-dire la ceinture de la rouille État industriel qui ont tourné Kazakh. En fait, on va y aller justement. On va aller faire un tour dans le Wisconsin. C'est intéressant, le Wisconsin qui n'avait pas voté républicain depuis Reagan, si mes chiffres sont bons, voilà, sur les années 80 et qui a tourné Kazakh donc pour ces élections-là. On est évidemment loin des grandes villes. Nous sommes à l'ouest de Milwaukee, dans une ville qui s'appelle Waukesha. Et c'est Sébastien Sabiron et Arthur Gerbeau qui nous y emmènent.
Sous le discret soleil de novembre, le centre-ville de Waukesha semble endormi en milieu d'après-midi. La ville natale de l'inventeur de la guitare Les Paul est l'une de ces banlieues proprettes et sûres, refuge douillet des classes moyennes supérieures qui ont fui les mégapoles. Devant la mairie, un peu plus d'agitation. Ici, on a déjà commencé à voter.
Lee Stewart, écossais-italien. Tout ce que je dis est vrai.
Blouson kaki et casquette militaire vissée sur le crâne, Lee coule une retraite paisible à Waukesha. Ce vétéran de la guerre de Corée a voté Trump en 2016.
Donald Trump n'est pas guidé par la politique. Il ne peut pas être acheté. Il dit exactement ce qu'il pense. On ne pouvait pas espérer mieux pour la Maison Blanche. J'étais démocrate il y a des années. J'ai changé car le parti est devenu socialiste. On ne sait jamais ce que les démocrates pensent. Avec Trump, quand il tweet qu'il empêchera la Corée du Nord de nous attaquer, c'est ce qu'il fait. Que demander de plus? Pourquoi voter pour quelqu'un d'autre?
Et l'argument massue des convaincus est aussi le thème central de la campagne républicaine. L'emploi au beau fixe avec un chômage sous la barre des 4%. Conservateur bon teint, Ken ne regrette pas d'avoir voté Trump.
Depuis qu'il est au bureau ovale, la bourse remonte. Les salaires montent, l'emploi reprend, tout va pour le mieux. Ce n'est pas le plus lisse des hommes devant un micro, mais il fait le boulot.
Et si la méthode Trump séduit, le style déplaît parfois, à commencer par
ses tweets, tais-toi un peu.
Dan Crider admire le personnage mais ne lit plus les tweets du président.
Je pense qu'au début, il ne savait pas vraiment dans quoi il s'embarquait. Et ses tweets lui ont fait beaucoup de mal. Ça permet à l'opposition de le dénigrer. Il le traite de raciste, mais je crois qu'il s'est un peu assagi. Les actes comptent plus que les mots. Voyez les actes.
Dans sa petite galerie d'art du centre-ville, Johan attend les rares clients, regard bleu acier, cheveux tirés en chignon. Cette sexagénaire BCBG votera républicain, comme toujours, malgré les frasques du bouillonnant président.
Je n'aime pas les tweets. Je crois que peu d'entre nous apprécient. Mais il fait du bon boulot d'un point de vue business.
Et pourtant ici, à Waukesha, il n'y a pas grand monde dans les magasins comme le vôtre. Qu'est-ce qui vous fait dire que l'économie va si bien?
Il y a plus de travail dans l'industrie. Le commerce, c'est différent. C'est calme en ce moment. Le gouvernement précédent n'a rien fait pour l'emploi. Et maintenant, nous avons plus de travail que de travailleurs.
Ce n'est pas l'avis de Dan et Dave qui reconnaissent à l'administration Obama son rôle dans la reprise économique. Républicains de longue date, les deux amis cette fois voteront démocrate.
Le président Trump est narcissique. Il a fait des choses vraiment dangereuses à mes yeux. Je suis très inquiet. Nous l'avons élu. C'est notre faiblesse, c'est notre erreur. Et pour moi, il faut voter pour le parti opposé, pour tenter de contrôler et d'enrayer son pouvoir.
Je peux comprendre que l'on sécurise nos frontières. Mais quand il lance des généralités sur certains groupes de personnes, ce genre de choses, ça me dérange. Je suis un peu d'accord avec sa politique, mais je n'aime pas ses méthodes irrespectueuses. J'ai des amis très conservateurs, mais qui ne peuvent pas voter Donald Trump. Je crois que les démocrates vont reprendre le pouvoir. Je le vois venir. Ça arrive régulièrement dans ce pays.
Et dans ce petit comté du Midwest, la perception qu'ont les électeurs du président actuel jouera un rôle déterminant dans les urnes. Pendant la primaire démocrate, en 2016, le sénateur texan Ted Cruz y avait récolté 3 fois plus de voix que Donald Trump.
Le Wisconsin avec Sébastien Sabiron et Arthur Gerbeau. Kenneth Venshine, est-ce que c'est un accident, un État comme celui-là, en 2016, ou est-ce que ça dit plus que ça?
Oh, ça dit plus que ça, c'est pas un accident, c'est frustration culturelle, frustration économique, sens d'être oublié par Washington, certainement la décision de Hillary Clinton de ne pas faire la campagne en Wisconsin. Wisconsin l'a pas aidé, certainement, mais ça va bien au-delà de ça.
Vous écoutiez aussi cette personne à l'intérieur de ce reportage qui est commerçante et qui dit l'économie va mieux, mais au fond, elle va pas vraiment mieux. Et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. On a l'impression que c'est quelque chose, finalement, d'empirique. On jette beaucoup de chiffres. Mais est-ce qu'on peut dire, honnêtement, Kenneth Venshine, que la situation des Américains a changé? Américain de base, là, qu'on trouve dans le Wisconsin ou ailleurs, est-ce qu'il peut objectivement dire « je vais mieux économiquement que je n'allais » L'ascenseur social est reparti ces 2 dernières années.
Oui, je crois, effectivement. Donc, le nombre de personnes qui cherchent de l'emploi a augmenté. Le nombre de personnes qui ont entré dans le marché du travail
a augmenté. On est à 3,7 voilà, pourcent de chômage, c'est encore beaucoup.
C'est incroyable. Le problème, quand on doit faire face au fait qu'on n'a pas assez de, il y a 6 millions de postes qui sont vides maintenant, et les employeurs peuvent pas trouver quelqu'un pour le remplir. C'est quelque chose d'important, mais c'est clair entre la réduction d'impôts, réduction de la réglementation, que l'économie est vraiment en train de bien démarrer pour l'instant. On entend l'inflation, certainement, mais...
Il y a quelques grandes entreprises comme Amazon aussi qui augmentent un peu le salaire minimum. Enfin, il y a des petits signaux comme ça, effectivement, où les gens peuvent se dire, tiens, je gagne $1 de plus.
Et que précédemment, la part, Kenneth Venshine, de Donald Trump, le coup de booster de Donald Trump par rapport à la situation qui était celle de l'Amérique lorsqu'il l'a trouvée après Barack Obama, c'est quoi sa part? Est-ce que le fait d'avoir baissé les impôts a été réellement quelque chose d'important ou pas?
C'est la confiance à l'égard des impôts et de la réglementation, et aussi le fait que l'argent qui a été mis à l'extérieur du pays par des grandes sociétés est revenu à cause de la réforme des impôts. Donc, il y a aussi les réductions d'impôts pour investir dans les usines, dans l'infrastructure. Les réductions sont immédiates. Donc, les gens sont en train d'investir dans leur propre société.
Avec un déficit, cependant, c'est ce que disent un peu les économistes. Est-ce qu'on s'en inquiète? Ou est-ce qu'il faut pas s'en inquiéter? Qu'est-ce que vous en dites, Kenneth Venshine?
Non, il faut s'inquiéter, certainement. La question, c'est de savoir si la croissance inattendue est presque de 4% de produit national brut va, de quelque manière, réduire le déficit dans les années à venir. C'est difficile à voir.
En tout cas, on verra et on en reparlera tout à l'heure, d'ailleurs, juste après le journal, Grégory Phillips. Il y a cette Amérique-là, celle du Wisconsin, qui est aussi une Amérique qui est plutôt rurale. Et puis, il y en a une autre, la fameuse Amérique industrielle, celle de Détroit, celle des abords des Grands Lacs, que vous avez été rencontrer, vous, et qui peut avoir un discours parfois similaire, des fois un peu plus nuancé.
Oui, contrasté. C'est-à-dire que on en parlera tout à l'heure, mais les ouvriers de l'automobile à Détroit disent effectivement ça va mieux, on embauche, etc. Et puis il y a les sous-traitants qui sont pris dans une guerre commerciale avec la Chine, par exemple. Et je pense à une sous-traitante républicaine qui pourtant me disait la guerre commerciale que Trump a entamée avec Pékin, moi je la paye parce que mes pièces détachées, elles me coûtent beaucoup plus cher, 25% plus cher. Donc la situation quand même est contrastée.
Eh ben on verra ça ensemble puisqu'on ira faire un aller-retour à Détroit, Grégory Phillips, là spécial midterm aux États-Unis. Continue ici dans le 18-20 France Inter en direct de Washington. Frédéric Mettezo pour le journal dans un instant et nous, on se retrouve juste après.
Il est 19h21, retour à Washington où nous attend Fabienne Synthèse, 18-20 spécial consacré aux élections de mi-mandat aux États-Unis. Fabienne.
Merci Frédéric. Et oui, retour à Washington, donc vous le disiez, jour de vote, retour sur une Amérique divisée jusqu'au déchirement qui choisit en ce moment. Si elle enlève un tout petit peu de pouvoir à Donald Trump en lui retirant l'une des chambres du Congrès, l'une seulement, on y viendra dans un instant, ou si au contraire, elle le laisse avoir les coudées encore plus franches à ce président
arrogant, iconoclaste, sans filtre, sans état d'âme aussi, et plutôt très content de lui. On poursuit la discussion qu'on a entamée tout à l'heure à 18h, et c'est reparti.
Un jour dans le monde, édition spéciale Midterm, en direct de Washington.
We have the best economy in our history. With a Republican Congress, we've added more than 4 million new jobs since Election Day and lifted 4 million Americans off of food stamps. Those are tremendous numbers. African American, Hispanic American, and Asian American unemployment rates have all recently achieved their lowest levels ever recorded. That's pretty good. That's a very hard soundbite to beat, right? If you're the opponent of Trump.
Voilà, c'est difficile à avaler tout ça quand on est un opposant dit Donald Trump qui, vous l'avez peut-être compris, vient dégrainer l'état de l'économie américaine, 4 millions d'emplois supplémentaires, 4 millions de personnes qui ne bénéficient plus des aides publiques, des emplois pour les minorités, donc pour les Noirs et pour les Latinos qui n'ont jamais été aussi importants. Bonsoir Charlotte Cavallé.
Bonsoir.
Vous êtes enseignante à deux pas d'ici à l'université de Georgetown et merci d'être avec nous. Un mot d'abord, on poursuit cette discussion qu'on a entamé tout à l'heure entre 18h et 19h. Un mot sur ce bilan égrené par Donald Trump, sur le principe, sur les chiffres, il a raison, non ?
Alors oui et non, c'est-à-dire qu'il a raison sur des moyennes, effectivement le taux de chômage a diminué, mais derrière cette moyenne se cachent des expériences individuelles très différentes. Donc par exemple, beaucoup de gens retrouvent un emploi, mais un salaire inférieur à la situation avant la grande récession de 2008. Il faut aussi regarder les richesses, c'est-à-dire que beaucoup de gens avaient investi dans leur maison, ils ont perdu leur maison et ils n'ont toujours pas recréé cette richesse. Donc imaginez 10 ans où vous n'avez pas cotisé pour votre retraite. Donc effectivement, vous avez un emploi, mais vous n'êtes pas dans la même situation qu'en 2008.
Un emploi ou plusieurs emplois d'ailleurs, parce que parmi les critiques qu'on peut lire ici et là, c'est oui, c'est vrai, l'emploi est revenu, mais enfin, il faut en avoir 3 pour boucler sa fin de mois. Est-ce que c'est des chiffres qui se retrouvent, ça ?
Alors effectivement, ça c'était vrai avant. Mm-hmm. Et donc avec la Great Recession, comme ça, en 2008, le nombre de personnes qui doivent faire 3 emplois a augmenté. C'est quand même surtout les minorités, donc c'est pas spécifiquement des électeurs de Trump. L'électeur de Trump type, c'est plutôt quelqu'un qui a retrouvé un emploi, mais un salaire inférieur, et qui est d'âge moyen ou un peu avancé. Donc imaginez-vous à 40-50 ans, se retrouver avec un salaire plus bas.
Et où est-ce qu'il est ? Est-ce qu'on peut le situer géographiquement, cet électeur de Trump qui aurait retrouvé un travail, par exemple ?
Cet électeur type, alors celui-là, il va être surtout dans les zones périurbaines et un peu dans les zones rurales. Dans les villes, ça va être plutôt un électeur issu des minorités ethniques. Donc c'est les régions autour des grandes villes et un peu plus rurales.
Alors est-ce qu'il est dans l'Amérique industrielle ? Je vous dis ça parce qu'on va y venir avec Grégory dans un instant. Est-ce qu'il est près des Grands Lacs ? Est-ce qu'il est dans l'Amérique de l'automobile ? Est-ce qu'il est dans cette Amérique-là ou pas du tout ?
Alors, alors il y a une partie de l'électorat Trump qui est là. L'électorat Trump est tellement divers.
Alors, l'électoral, oui, mais celui qui a retrouvé du travail.
Alors, celui qui
aussi,
a retrouvé du travail, dans quelle région est-ce qu'il y a eu une reprise économique? Il y a eu en partie dans ces régions-là, pour certains types d'industries, surtout celles qui ont été aidées pendant la grande récession. Les 3/4 de la reprise, c'est quand même dans les grandes villes, dans les industries du tech, dans des postes dits, où il faut un niveau d'éducation très élevé. Et ça, c'est pas l'électeur de Trump.
Grégory Phillips, vous qui avez été faire notamment un aller-retour à Détroit, on en parlait tout à l'heure, il y a cette Amérique industrielle donc qui est censée être l'Amérique des démocrates, l'Amérique qui a voté à gauche pendant très longtemps et qui a changé son fusil d'épaule pour ces dernières élections, notamment donc dans les endroits fortement industriels. Au fond, qu'est-ce qu'elle dit
Michigan,
Michigan par exemple, qu'est-ce qu'elle dit cette Amérique-là aujourd'hui ?
Elle dit qu'elle sort d'une période extrêmement longue où les emplois se sont cassés la figure, où les usines fermée, etc. Et puis elle dit que elle a l'impression que ça revient petit à petit. Alors ça, on le constate de manière un peu empirique, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, en allant sur le parking d'une usine de Sterling, par exemple, près de Détroit. Il est 14h, il y a les ouvriers qui sortent de leur journée de travail pour ceux qui ont commencé tôt. Et puis quand on leur pose la question, quasiment tous, ils vous disent non, ça redémarre, on construit de plus en plus de voitures et c'est sans doute lié à Trump. Écoutez quelques-uns de ces ouvriers.
Absolutely, because he's a businessman.
Absolument. C'est un homme d'affaires, c'est pas un politicien. On ne peut pas se moquer de lui. Ici, on embauche. Il n'y a que les gauchistes qui ne l'aiment pas. Je ne sais pas bien pourquoi d'ailleurs.
Honnêtement, je pense qu'il a accompli des trucs formidables. Il bouscule un peu les choses. Et c'est formidable qu'on ait à la tête du pays un businessman, un homme d'affaires capable de négocier avec les autres pays, que ce soit sur les importations ou sur les exportations.
Il a l'air authentique. Il doit conserver sa majorité au Sénat. Les démocrates ont tout fait pour le faire perdre avec leurs fake news, leurs dossiers bidons, toute cette merde. Ils essayent de le dégager. Mais pour moi, ça prouve juste que eux ont quelque chose à cacher. Je ne dis pas que les républicains sont forcément mieux, mais il faut que Trump garde sa majorité afin de poursuivre son programme.
Voilà, trois ouvriers rencontrés sur un parking de cette usine RAM qui fabrique des pick-up, la voiture chère à la middle class américaine.
Alors en même temps, ce qui est intéressant dans cette région, Grégory, c'est que il y a l'automobile et puis il y a tous les sous-traitants qui sont dessous, puis il y a tout ce qu'on utilise, y compris en matière première, qui est lourdement taxé par les droits de douane. Donc on parle de l'acier, on parle de l'aluminium. Qu'est-ce que ça devient, ça? Est-ce que il y a un retour de bâton dans cette industrie-là ou pas?
Bah, c'est vrai que ça contraste un peu avec ce qu'on vient d'entendre, parce que toujours à Détroit, on a rencontré il y a quelques jours une sous-traitante qui travaille dans l'automobile, qui emploie une cinquantaine de personnes et qui travaille beaucoup avec la Chine. Et ce que cette femme m'expliquait, c'est que la guerre commerciale entamée par Trump vis-à-vis de Pékin, notamment en taxant à 25% les importations chinoises, ça avait des conséquences pour elle, parce que elle, les pièces détachées, elle les fabriquait à Shanghai. Donc, et pourtant, cette femme est républicaine, elle a voté Trump, mais elle dit, voilà, la guerre commerciale, America first, oui, mais nous, on en train de payer les pots cassés. Donc, vous voyez, c'est assez contrasté, même dans un électorat plutôt trumpiste. D'ailleurs, cette femme, je l'avais rencontrée parce qu'elle avait publié dans la presse une tribune pour s'adresser directement au président en disant « Attention à ce que vous faites, parce que nous, on paye les pots cassés ».
Charlotte Cavaillé, est-ce que ce sera effectivement un backlash, j'allais dire, un retour de bâton, ces droits de douane très importants, comme le disait d'ailleurs cette femme qu'a rencontré Grégory ou pas?
Alors, faut comprendre que les droits de douane, c'est des coûts très concentrés sur quelques entreprises, et après ça se diffuse dans l'industrie et dans l'économie. Donc, qu'est-ce que les gens voient quand ils font ce type de politique? Ils voient deux choses. Ça augmente les prix de l'acier, ça a des problèmes, mais c'est des problèmes assez diffus en termes d'augmentation des prix. Mais surtout, ils redonnent une dignité aux États-Unis dans le monde. Mmh. Et ça, c'est un bénéfice personnel, psychologique, tout aussi important. Donc après, comment est-ce que les gens vont faire entre le porte-monnaie et ce bénéfice psychologique? Si vous êtes juste un employé et que votre entreprise ne fait pas faillite, vous aimez bien le côté psychologique et vous restez en faveur de Trump.
Et c'est bien ce qu'on disait, en fait, tout à l'heure. On a l'impression que les gens parlent d'économie, effectivement, de manière finalement assez empirique, en regardant des chiffres dans les grandes largeurs, mais que, au fond, leur situation personnelle à eux, pour l'instant, n'entre pas en ligne de compte. On parle d'identité, on ne parle pas d'économie réellement, en fait, Charlotte Cavaillé, non?
Alors, le problème, c'est que l'économie, même vous, dans votre vie à Paris, je pense que vous ne pouvez pas toujours percevoir en quoi l'économie vous affecte. Donc, vous utilisez des raisonnements plus larges sur comment est-ce que ça affecte les États-Unis. Donc, il est assez normal que vous ayez ce type de réflexion. Par contre, il y a des situations où les politiques vous affectent. Par exemple, vous avez bénéficié d'Obamacare, et si on le prend, vous n'allez pas pouvoir vous soigner. À ce moment-là, on voit que l'intérêt personnel prédit le comportement politique. Mais en règle générale, l'économie en soi... les individus sont pas directement affectés de manière assez conséquente.
Et c'est probablement, Charlotte Cavaillé, la raison pour laquelle ces derniers jours, on a l'impression qu'il évite ce sujet, Donald Trump, alors qu'il pourrait se jeter dedans et en profiter. Au contraire, il va plutôt chercher dans une autre direction que celle-ci. À votre avis, pourquoi?
Parce qu'effectivement, ça on le sait très bien en sciences politiques, quand vous créez des politiques publiques qui ont un bénéfice targeté très visible, c'est quelques milliers de dollars par an pour ceux qui se retrouvent à bénéficier de ce type de politique publique, effectivement, là, les gens sont en faveur de la politique. Donc, ils peuvent rester républicains, mais ils sont en faveur d'Obamacare. Ou du moins, ils ne veulent pas un repeal, donc c'est-à-dire
qu'on retire
cette politique sans la remplacer. Et comme là, il n'y a pas de majorité au Congrès pour trouver une solution comment le remplacer, bon, bah, Trump, il n'est pas bête, il ne le mentionne pas.
Il n'y va pas, il se contente de travailler au corps sa base, sa réelle base, ce Donald Trump. On va poursuivre notre tour d'Amérique, justement, notre tour d'Amérique de cette Amérique de Donald Trump pour aller chercher cette vraie base, la vraie de vraie, celle des évangélistes, celle qui de toute façon n'a jamais eu de doute, ou peut-être au début d'ailleurs était plutôt dans la direction de Ted Cruz en 2016 et puis qui s'est ralliée et qui voit peut-être aujourd'hui
aujourd'hui d'ailleurs un président encore mieux que ce qu'il pouvait imaginer d'un président américain. C'est à Lynchburg que nous allons, à la Liberty University, et le reportage est signé Eric Biegala.
Liberty University à Lynchburg en Virginie a tout de l'université classique américaine. Un vaste campus, 28 km², où s'ébattent 16 000 étudiants, entre stade de football, stade de baseball, longues pelouses entretenues au millimètre et bâtiments de style jeffersonien, tout en colonnades et tympans néoclassiques. Mais Liberty n'est pourtant pas une université américaine comme les autres. C'est évident dès qu'on demande à ses étudiants ce qui les a attirés ici. Ils s'appellent Juan, Maliki ou Joshua. Ils ont entre 18 et 21 ans et sont en fac de lettres, de communication, d'administration des affaires ou de sciences politiques.
Liberty nous offre pas mal de choses, genre atmosphère tournée vers le Christ. C'est une communauté qui vous élève.
Ici, on bénéficie d'un environnement où les gens qui vous entourent suivent le Seigneur avec constance. Et vous pouvez faire de même.
Ce que j'aime ici, c'est que tout est tourné vers le Christ. Les équipes de sport, les cours, même les groupes d'amis sont centrés sur le Christ. J'aime cette ambiance.
Fondée en 1971 par le télévangéliste Jerry Falwell, l'inventeur de la majorité morale, cher à Ronald Reagan, Liberty University est une université chrétienne. Elle a aussi la réputation d'être l'établissement d'enseignement le plus conservateur des États-Unis. Samuel Smith y est le président du département d'histoire.
Honnêtement, je ne crois pas qu'il y ait d'équivalent ailleurs. Un tel campus avec autant d'étudiants et ce très fort prisme évangélique et conservateur, c'est unique. Cette université s'engage à diffuser la bonne nouvelle chrétienne au travers des parcours professionnels que les étudiants choisissent de suivre. Former des champions du Christ, c'est la devise de l'école depuis longtemps. Comme disait le grand réformiste Jean Calvin, il faut regarder le monde à la lumière des Écritures. Et c'est ce qu'on essaie de faire.
Le prisme chrétien peut-être, conservateur certainement, mais Liberty est aussi et avant tout évangélique, c'est-à-dire professant un christianisme traditionnaliste, fondamentaliste même, volontiers prophétique, et justement, mêlant pour ainsi dire l'utile à l'agréable, les étudiants du département cinéma de l'université viennent de coproduire, de réaliser un long métrage, sorti début octobre, un docu-fiction distribué dans 1400 cinémas aux États-Unis, son titre « The Trump Prophecy ». Stéphane Schulte, directeur du département cinéma de l'université, en a été le réalisateur.
C'est basé sur une histoire vraie, celle d'un pompier, Mark Taylor, qui se débattait avec ses cauchemars et ses visions, et qui un jour, en 2011, a eu une révélation après avoir entendu Donald Trump à la télévision. Il a su que c'était la voix du prochain président des États-Unis. Et puis en 2016, au moment où Trump annonce sa candidature, il constitue avec son pasteur un groupe de prière de plusieurs milliers de personnes en soutien à Donald Trump autour de cette révélation. Et à la fin, Donald Trump est élu. C'est ça la structure du film.
Mais vous n'auriez pas fait un film sur une prophétie Clinton, par exemple?
Oh, on aurait fait comme pour tout le reste. Quand on reçoit un script ou une idée, on voit si ça plaît aux étudiants. Et au bout du compte, c'est la direction qui décide de ce que l'on fait et de ce que l'on ne fait pas.
If my people who are called by my name will humble themselves and pray, then will I hear from heaven and heal their land.
La direction de l'université, c'est Jerry Falwell Jr., le fils du fondateur. Jerry Falwell, c'est un soutien de la première heure de Donald Trump, lequel est d'ailleurs déjà intervenu à 3 reprises à Liberty University. Les évangéliques, qui demeurent le groupe religieux le plus important aux États-Unis, 25% de la population, ont d'ailleurs voté Trump à plus de 80%. Ils constituent sans doute le véritable socle de son électorat, et pour eux, Donald Trump a déjà fait beaucoup à la tête de l'État américain. En reconnaissant par exemple Jérusalem comme la capitale de l'État d'Israël et en y installant l'ambassade américaine. Jerry Falwell confirme, c'était un sujet d'importance capitale pour les évangéliques.
That's one of the biggest issues, yes.
C'était capital, en effet. Beaucoup d'évangélistes se réfèrent à l'alliance abrahamique de l'Ancien Testament, où Dieu dit à Abraham, « Je bénirai ceux qui te béniront et maudirai ceux qui te maudiront, ainsi que leurs descendants. » Les évangéliques prennent ça à la lettre. Dieu bénira ceux qui bénissent Israël et maudira ceux qui la maudissent.
Les évangéliques soutiennent Trump pour d'autres raisons aussi, plus immédiates. Pour ce qu'il a accompli depuis son arrivée à la Maison-Blanche, sa quasi abrogation de l'amendement Johnson, par exemple, remarque Jerry Falwell.
C'était une règle qui faisait que les pasteurs, les églises ou les associations ne pouvaient soutenir ou s'opposer à tel ou tel candidat politique. Trump l'a édulcoré grâce à un décret présidentiel et aujourd'hui, les leaders d'associations, d'églises ou d'écoles ont au moins une liberté de parole politique.
Et puis il y a aussi, bien sûr, les nominations à la Cour suprême.
Les autres réalisations importantes de Trump, ce sont les nominations à la Cour suprême de juges qui respecteront la Constitution et qui n'essaieront pas de la réécrire à chaque affaire.
En nommant à la Cour suprême Neil Gorsuch en 2017 et Brett Kavanaugh il y a quelques semaines, Donald Trump a effectivement contenté les évangéliques au plus haut point, confirme Caleb Fisher. Il enseigne les sciences politiques à Liberty.
Moi, j'avais voté Trump à la présidentielle parce que je suis pro-life, anti-avortement et parce qu'il allait potentiellement nommer des juges à la Cour suprême, lesquels en Amérique sont en poste à vie.
Les évangéliques, en effet, n'auront plus à redouter d'alternance politique, de changement de majorité au Sénat ou à la Chambre. Ces juges à la Cour suprême, désormais des conservateurs en grande majorité, sont en place pour un bon moment. Et ce sont eux qui devront juger in fine de toutes les procédures en cours visant à contourner la légalisation de l'avortement. Abroger les textes autorisant l'interruption volontaire de grossesse demeure en effet le combat numéro un des évangéliques.
Éric Biégala à Lynchburg, à Liberty University, merci à lui. Charlotte Cavaillé, je le disais tout à l'heure, inespéré pour cette base-là, Donald Trump, même mieux encore que ce qu'ils avaient imaginé, j'imagine, non ?
Alors, je pense que n'importe quel candidat républicain ne l'aurait plus. Parce que là, vu ce qu'il y avait dans les primaires. Donc, dans ce sens-là, c'est plutôt une histoire d'un groupe de voteurs qui se mettent à bien aimer Trump, malgré son langage, qui ne rentre pas dans les normes de cette communauté-là.
Et malgré sa vie, d'ailleurs, divorcé trois fois, etc. Donc, ils ont fait une croix sur beaucoup de choses, mais néanmoins, visiblement, assez contents.
Oui, et c'est intéressant de comparer avec les Mormons. Donc, les Mormons, qui sont un groupe religieux qui, a priori, aurait des préférences en termes d'avortement, etc., similaires. Eux, au moment des élections, se sont surtout portés sur des candidats, un troisième candidat. Il y avait quelques candidats qui étaient parallèles aux deux grands partis. Et là où ils avaient voté à 75% pour Romney, ils ont voté à 45% pour Trump. Mm-hmm. Donc pourquoi les évangélistes sont si différents des mormons? Je pense qu'il y a deux raisons. Un, c'est une identité qui est vraiment rattachée à l'avortement. Donc pour eux, ça devient un enjeu personnel. Et donc effectivement, ils voulaient que les républicains gagnent. Donc ils n'avaient pas allé pour un troisième parti. Et ouais, je pense que ce serait surtout ça. Là. C'est vrai que le rôle de l'avortement pour cet électorat-là est très important.
Et la bataille gagnée, on y viendra dans un instant, la bataille gagnée au cours de la Cour suprême, sur la Cour suprême, le fait que le juge Kavanaugh soit bien là et bien installé, forcément un signe extrêmement positif pour eux, et justement sur le thème dont vous parlez, sur celui de l'avortement.
Oui, et non seulement à la Cour suprême, mais aussi sur toutes les autres cours fédérales. Trump a remplacé le plus de juges de tous les présidents. Là, il a raison quand il utilise des superlatifs. Par rapport à Obama, qui en a quasiment pas remplacé. Donc non seulement, c'est même pas avant d'arriver à la Cour suprême, ce type de décision juridique va se présenter à des cours dites fédérales qui sont, sera beaucoup plus conservatrices qu'avant.
Et puis il leur a amené aussi Mike Pence à la Maison Blanche, qui est quand même
le vice-président.
Le vice-président qui est quand même leur champion. Mike Pence entouré d'une armée de conseillers religieux, etc., qui ont vraiment pied dans la Maison Blanche. Donc ça, c'est quand même important pour eux aussi.
Alors ce juge Kavanaugh, donc l'importance de la Cour suprême, l'importance du vote des jeunes aussi, les moments qui ont été des grands moments marqueurs des derniers mois de cette présidence. La Cour, on le disait, les histoires de Parkland aussi sur le port d'âme, on va y venir dans un instant, juste après les Doors, tiens, sur France Inter, et toujours en direct de Washington. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on.
become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on.
Years ago, this happened. I had one beer, right? I had one beer. Well, do you think it was? Nope, it was one beer. Oh, good. How did you get home? I don't remember. How'd you get there? I don't remember. Where is the place? I don't remember. How many years ago was it? I don't know. I don't know.
Since the time that I came out here, it has been 6 minutes and 20 seconds. The shooter has ceased shooting and will soon abandon his rifle, blend in with the students as they escape, and walk free for an hour before arrest. Fight for your lives before it's someone else's job.
Alors pourquoi je vous fais écouter ces deux extraits, deux moments marqueurs des derniers mois de la présidente Donald Trump? D'abord, c'est lui, vous l'avez entendu, qui se moque du docteur Ford après son audition devant les sénateurs, si je ne me trompe, Grégory. C'est sous votre contrôle que je parle. Dites oui comme ça pour
oui.
Voir. Voilà, merci
oui,
beaucoup.
Bien.
Devant les sénateurs, donc après l'audition du docteur Ford au sujet de Kavanaugh à la Cour suprême, et puis Emma Gonzalez qui crevait l'écran après la tuerie de Parkland en Floride où 17 personnes, 17 gamins sont morts et qui avaient fait beaucoup de bruit, là on l'entend à Washington. Grégory, tiens, l'effet jeune, est-ce qu'il y a un effet jeune cette fois-ci? Est-ce que Emma Gonzalez a fait des petits, si je puis dire? Est-ce que il se passe quelque chose, alors que d'habitude, s'il y en a bien qui sortent pas pour les élections mi-mandat, c'est bien cela?
Bah, vous vous souvenez, après la tuerie de Parkland, on avait eu à Washington une manifestation absolument monstre.
Absolument,
avec,
et c'est là qu'elle parle, c'est ce qu'on a entendu.
Ouais. C'est là qu'elle parle. Et moi j'étais dans cette manif et je m'étais dit, tiens, il se passe quelque chose, quoi. Pour une fois, après une tuerie, il se passe quelque chose. On y avait 200 000 ou 300 000 jeunes gens dans les rues de la capitale fédérale qui disaient on va avoir le droit de vote parce qu'on a 17 ou 18 ans, bientôt on pourra voter et on dira ce qu'on pense sur le contrôle des armes, etc. Ces jeunes, Emma Gonzalez et d'autres, Léonore Munoz, David Hogg, pendant toute la campagne, ils ont sillonné les États-Unis avec une caravane pour aller inciter les jeunes à aller s'inscrire sur les listes électorales. Donc il y a eu un mouvement. Toute la question est de savoir, c'est est-ce que ça va porter suffisamment loin pour que effectivement des centaines de milliers de jeunes aillent voter aujourd'hui. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a eu cette tentative, en tout cas, de dire voilà, on va porter ça sur le plan politique et on va essayer d'entretenir cette flamme qu'on a entendue d'Emma Gonzalez jusqu'au midterms. Est-ce que le message aura porté au point que cette jeunesse qui veut un contrôle des armes, qui est quand même assez proche des démocrates, qui a été d'ailleurs encadrée par des associations très proches du Parti démocrate, est-ce que cette jeunesse va aller jusqu'au bureau de vote et mettre un bulletin dans l'urne? Ça, je ne sais pas.
Et Charlotte Cavallé, un effet jeune, on verra bien. Effectivement, on n'en sait rien. Un effet arme, finalement pas. Au fond, là-dessus, est-ce qu'on peut dire que Donald Trump, il l'a gagné, cette bataille-là?
Moi, j'ai interprété ces mouvements-là comme un peu un signe du vide idéologique du parti de gauche ici, entre guillemets, du parti démocrate. C'est-à-dire que s'ils doivent, c'est les femmes et les jeunes qui, le projet politique de ce parti-là, il va avoir du mal à mobiliser les foules. Sur la question des armes, moi, dans mes données, je trouve quand même qu'il y a beaucoup de gens, c'est-à-dire que les deux côtés, donc historiquement, les démocrates étaient pour la régulation des armes et les républicains contre. Mais les républicains étaient contre de manière beaucoup plus intense. Et là, il semblerait que les intensités s'équilibrent. Donc les démocrates sont aussi pour la régulation et ils en font un sujet politique. Est-ce que ça va tout changer? Non, je ne pense pas personnellement. Il faut construire une coalition et ça, un enjeu, ça ne va pas suffire.
Mais c'est intéressant ce que vous disiez sur effectivement, est-ce que les démocrates sont capables d'aller chercher ces mouvements-là, donc les jeunes, les femmes. On a l'impression qu'ils courent derrière des hashtags au fond. Donc un hashtag #MeToo, un hashtag, je me souviens plus comment quel était le hashtag
March
des jeunes.
March for Life.
Est-ce que ces hashtags-là finissent par créer effectivement un groupe ou quelque chose auquel les démocrates peuvent s'accrocher pour faire des voix, ou tout ça est finalement encore très évanescent?
Alors historiquement, comment est-ce qu'on fait voter une coalition et qu'on met un nouveau candidat, on l'amène au pouvoir? C'est il faut aller toquer sur les portes, il faut aller conduire les gens au vote et les mobiliser sur le long terme. Donc il n'y a aucune évidence que ce type de mobilisation-là va se transférer en termes de vote. Donc moi je suis plutôt pessimiste, même si ça, à partir de Twitter et de Facebook, effectivement je vois beaucoup de choses et c'est intéressant. Mais je pense pas que c'est ça qui va apporter le Parti démocrate dans le futur.
Alors les femmes, justement, on a l'impression aussi qu'on leur a mis dans les mains une quasi-responsabilité de faire gagner les démocrates cette fois, avec deux choses, Charlotte Cavaillé. Un appel à voter énormément, et puis surtout énormément de candidates, qui, pour certaines, ont d'ailleurs été placées sur des circonscriptions qui sont extrêmement difficiles à prendre.
Oui, donc ça, de toute façon, c'est le même.
Un grand classique,
c'est
si
un
je puis permettre.
Classique, voilà. Donc bon, on verra. Ils font un début. À mon avis, il y en a plein qui vont perdre, effectivement, parce qu'elles ne sont pas dans le bon endroit. Mais elles vont rentrer en politique. Ça, elles vont parler à du monde. Donc c'est un processus qui, à mon avis, on va récolter les fruits dans 10-15 ans. Mais c'est le début.
C'est le début seulement, et ce qu'on appelle le gender gap ici, en tout cas, Grégory, le nombre de gens, de femmes qui votent pour les démocrates par rapport à ceux qui votent sur les républicains, pour le coup là, on le voit, il est clair, non?
Oui, je parle sous votre contrôle. Les femmes représentent le plus gros du corps électoral. Mm-hmm. Elles sont plus nombreuses que les hommes, il me semble. Mm-hmm. Mais en 2016, elles avaient majoritairement voté pour Trump, à un peu plus de 50%, je crois. C'est pas un bloc monolithique, je veux dire. Enfin,
au sein des femmes blanches, parce que c'est comme ça que ça se divise ici, c'était 49 pour Hillary, 47 pour Trump. Après, les femmes minorités, il n'y avait pas de souci, c'était Hillary.
D'accord.
Alors justement, on disait que ces femmes n'étaient pas un bloc monolithique, et c'est important parce qu'on a un peu l'impression effectivement que toutes les femmes américaines désormais vont voter pour les candidats ou candidates démocrates, ce qui est loin d'être le cas. Je voudrais vous faire écouter Pia Owens. Elle est avec son mari. Pia, vous les connaissez, Grégory. Ce sont des gens qui habitent pas très loin, ici en Virginie, de l'autre côté du pont. Son mari s'appelle Ken, et voici ce qu'elle nous dit, fan de Trump, Pia Owens, et voici ce qu'elle nous a raconté, c'était hier.
I'm part of a secret Facebook.
Je fais partie d'un groupe Facebook secret de 5500 femmes, des femmes du nord de la Virginie ou de tout le pays, mais surtout d'ici en Virginie. On discute de beaucoup de choses, mais on ne peut pas le faire ouvertement.
Can I add just one thing to that?
Est-ce que je peux dire un mot? Ces femmes ne peuvent pas dire autour d'elles qu'elles sont pour Trump, parce qu'elles perdraient leurs amis, mais le plus important, leur travail. Vous imaginez?
Think about that.
C'est un groupe secret. Il a fallu que quelqu'un me nomme pour y rentrer. Et ensuite, ils ont vérifié mon compte Facebook, mes propos sur les réseaux sociaux. Il y a 5 administrateurs. Ils font très attention à tout ce qu'on poste. Et c'est arrivé une fois ou deux, des gens qui essaient de rentrer alors qu'ils n'ont rien à y faire. On les vire immédiatement. Vous pouvez essayer de chercher mon nom, vous ne le trouverez pas.
You know, thrown out of that group fast. You
can search. Et je ne vous donnerai pas le nom du groupe non plus. C'est ce qu'on appelle la majorité secrète.
That's what's called the secret majority.
Silencieuse. Qui était presque.
Last Saturday.
Samedi dernier, il y avait une marche.
Et ils nous ont demandé, combien d'entre vous ont perdu des amis, de la famille? Levez la main. Tout le monde a levé la main. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut plus avoir d'opinion sans perdre des amis? Pia a perdu une grande amie.
Je la connaissais depuis plus de 40 ans. Mais je ne suis pas la seule. Dans ce groupe Facebook, on a tous perdu quelqu'un. Des mères déshéritent leurs filles, des pères. C'est vraiment triste.
Charlotte Cavaillé, d'abord on remarque combien Ken marche sur Pia qui cherche à s'exprimer, ça dit quand même beaucoup de choses. Et ça nous permet de boucler la boucle avec ce qu'on disait en début d'émission, et c'est l'une des remarques de Kenneth en effet. Qu'est-ce que ça dit de l'Amérique quand on en est à faire un groupe Facebook secret pour pouvoir être supporter de Donald Trump quand même, quand on est une femme?
Alors c'est l'aboutissement d'un très long processus, donc on y est dans un sens. Ça a commencé en gros dans les années 60 avec les mouvements des droits des African Americans,
Des noirs
américains. Ça s'est radicalisé dans la rhétorique sous Newt Gingrich au milieu des années 90. Et avec Obama, ça s'est aussi accéléré. Et donc là, avec Trump. Ce qui est intéressant, je pense, c'est ce qu'elle dit. C'est pourquoi est-ce que ces gens-là se sentent si menacés par l'autre, de l'autre côté. De la même façon que les républicains se sentaient menacés par l'élection d'Obama. C'est que c'est chaque candidat, chaque parti représente un style de vie tellement différent que si l'autre gagne, on peut se sentir affecté dans sa manière de parler, de consommer, on peut voir ses amis, si on a des amis de minorité, être affecté. Et donc c'est plus de la politique publique, c'est interprété à travers un prisme de mon style de vie.
Ça veut dire ce que doit être l'Amérique, pas seulement ce qu'elle doit accomplir, ce qu'elle doit faire, mais ce qu'elle doit être réellement intrinsèquement, ce quoi elle doit croire.
Mais dans les pratiques quotidiennes, c'est-à-dire que dans les années 90, on parlait des gens qui voulaient protéger leurs armes, protéger leur religion, on pensait à ce groupe minoritaire. Mais là, il faut penser un peu les gens de gauche, les libéraux ici, libéraux dans le sens américain du terme, dans la même perspective, ils s'en sentent assiégés, ils doivent protéger leur style de vie urbain, de la diversité, etc.
Alors, si vous le permettez, je vais vous faire écouter l'antithèse totale en fait de Pia Owens. Elle s'appelle Chinelo Okparanta, qui est écrivain, comme on le sait, qui a écrit notamment Sous les branches de l'Oudala. C'est publié d'ailleurs en France, j'en profite pour le dire, chez Belfond, féministe, militante, gay, auteur. C'est deux femmes qui ne pourraient pas être plus différentes et qui donc, et elles l'admettent, ne pourront jamais se rencontrer ni se parler.
You know, I do know women who support Trump.
Je connais des femmes qui sont favorables à Trump, qui l'appuient, mais personne parmi mes amis proches, pas ça. Ce sont des connaissances, disons. Mais il est très important dans la vie d'essayer de bien comprendre l'autre partie, l'adversaire. Mais ce qui est essentiel aussi parfois, je crois, c'est d'avoir confiance en ce que l'on croit soi-même, parce que l'adversaire n'est pas toujours facilement compréhensible. Et vous ne pouvez parfois pas vous arrêter d'agir de façon mal, tout simplement parce que vous n'arrivez pas à les atteindre.
Mais si vous aviez là, si j'étais moi, américaine, et que je votais pour Donald Trump avec beaucoup d'enthousiasme, qu'est-ce que vous me diriez ?
J'aurais l'espoir d'avoir une conversation avec vous, qu'on puisse s'asseoir face à face et que vous puissiez me dire exactement ce qui vous intéresse chez Trump. Précisément, très exactement ce que vous aimez chez Trump. Qu'est-ce qui, à votre avis, vous donne cette envie de l'appuyer, de le soutenir et de voter pour lui? J'espère pouvoir avoir cette discussion avec vous. Mais si ça n'est pas possible pour nous de nous asseoir face à face et d'en parler, eh bien, le mieux, c'est que de continuer avec ce que notre intime conviction. Aujourd'hui, on assiste à beaucoup d'attentats terroristes aux États-Unis. Et en général, dernièrement, ces attentats sont perpétrés par des hommes blancs. Et c'est la réalité. Mais dans l'ensemble, il me semble que ce pays est malade. Quand on a ces débats de ce genre, tout le monde est sur la défensive. Alors, il serait peut-être agréable d'avoir des espaces sûrs, protégés, où on peut parler, justement. Le problème, c'est le temps. On n'a pas l'impression de se doter de suffisamment de temps pour pouvoir s'exprimer avant que la chose ne s'envenime. Alors, je ne sais pas comment faire pour que l'on puisse ramener les personnes dans un collectif sur la même page. Le monde universitaire est un lieu unique où on peut justement être en collectif. J'enseigne à l'université aujourd'hui et je puis vous garantir qu'il y a autant de démocrates que de républicains et ça a été une enceinte difficile pour moi, ou enseigner, ou donner des cours. Parce que lorsque je sors de la salle de classe, je vois des panneaux Trump, des panneaux White Power, puissance blanche, je suis une femme noire. C'est quelque chose d'assez effrayant à voir. Mais je suis là. Et lorsque les jeunes Américains me voient devant une salle de classe donnant un cours, et peut-être qu'ils vont eux-mêmes commencer à voir une autre femme noire que ce qu'ils perçoivent de façon stéréotypée en général. Et peut-être qu'ils vont commencer à percevoir différemment la femme noire. Ça ne veut pas forcément dire que j'ai un débat direct avec la femme blanche pour lui dire « oui, lisez mon livre, ça vaut la peine ». Mais peut-être que les jeunes vont percevoir quelque chose de plus en moi par ce que je fais, par ce que je représente. Et ce ne sont que par les petites choses, en fait, que l'on peut gagner parfois.
Chinelo, on a parlé effectivement des Noirs américains. Trump attaque les immigrés aujourd'hui. Vous êtes une femme, vous êtes homosexuelle et les minorités sexuelles sont attaquées. Est-ce que des fois vous vous dites, je ne comprends plus le pays qui pourtant m'a accueilli quand j'avais 10 ans, ce pays auquel je pensais appartenir?
C'est vrai que j'incarne plusieurs choses. Et il est vrai que le pays ressemble à toute autre chose que ce que j'ai perçu quand j'avais 10 ans à mon arrivée. mais par d'autres aspects pas si différents que cela. En tant qu'enfant noir, à 10 ans, je me souviens que ma mère et moi, nous allions au supermarché, au magasin, que sais-je. Et les vendeurs dans le magasin nous suivaient comme si on allait voler quelque chose. La grande différence maintenant, c'est que les personnes estiment avoir un droit. Trump a ouvert la porte, la boîte de Pandore, pour que les personnes commencent à dire un peu tout à tort et à travers. Et pour une femme immigrante, femme comme moi, noire, c'est presque, je me sens presque plus en sécurité parce que je sais au moins qui me déteste et à quoi je m'attaque. Je peux pointer du doigt plus ou moins les personnes qui me détestent et peuvent me protéger.
Finalement, Okparanta, qui est au fond un bon concentré d'Amérique, de cette Amérique-là, en tout cas Charlotte Cavaillé. Si on peut se parler, tant mieux. Si on peut retrouver un collectif, tant mieux. Mais sinon, chacun dans son camp, et ce sera aussi bien comme ça. Au fond, c'est ça qu'elle nous dit.
Oui, et historiquement, les États-Unis l'ont très bien fait. C'est-à-dire qu'il y avait le Sud qui avait des pratiques héritées de donc Jim Crow et qui a réussi à survivre dans une fédération parce qu'en fait, le Parti démocrate n'était pas un parti cohérent à l'époque, était un parti divisé. Et donc, on peut imaginer une situation comme ça où les gens, comme la personne que vous avez interviewée, vont aller du côté de la Californie ou dans les grandes villes, et on va imaginer un système où la vie au niveau local va être très différente de la vie au niveau national.
Et alors c'est pas une guerre de sécession, puisque c'est pas le même visage géographique de l'Amérique pendant la guerre de sécession, mais au fond ça dit la même chose. Et si c'est le terme que j'emploie, c'est parce que beaucoup nous ont parlé de guerre civile. La une d'Harper's Magazine cette semaine dit est-ce qu'on peut en finir avec cette guerre civile ou quelque chose de ce type-là. Est-ce que c'est des mots qui sont trop forts, selon vous, Charlotte Cavaillé, ou pour cette Amérique-là, ou pas?
Je pense que c'est des mots trop forts parce que le système est beaucoup plus flexible. Je viens de vous donner une manière dont ça pourrait coexister. L'impression de guerre civile, elle est effectivement limitée à un univers des médias et de Twitter, où quand même il y a une bonne partie des Américains qui n'ont pas accès à cette sphère-là. Il y a une bonne partie qui a accès à la sphère Fox, où là, il y a d'autres processus de polarisation. Le discours est extrême, je ne pense pas. Moi, j'étais en Virginie et j'ai discuté avec les représentants locaux du Parti républicain. J'ai pas été agressée, j'ai pas été.
Donc, je pense. On ne pas lancé de pierre, alors.
Non, non, il y a tout un dégradé d'expérience.
Et nous non plus, on n'a pas reçu de pierre. Et fort heureusement, juste un dernier mot, parce qu'il nous reste 8 secondes, Grégory Philips. Est-ce que c'est très grave si Donald Trump perd la Chambre? Est-ce que quelque chose est vraiment bouleversé à partir de ce soir ou pas?
Ça le rendra sa politique un peu plus compliquée pendant 2 ans. Mais traditionnellement, les présidents américains perdent les mi-termes. Donc ce serait pas quelque chose de totalement inhabituel qu'ils perdent quelques sièges.
Eh ben, on aura l'occasion d'y revenir ici même demain, puisqu'on est là à nouveau, tant mieux avec les résultats. Merci à Mélissa Delman, merci à Fabrice Lègle, à François Rivialan et à Pierre Quintard. Merci à vous tous, évidemment, qui avez participé à cette émission. À demain.